Bien, bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir Bruno Palier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation au premier dialogue MR21 de 2024. Je vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir sur un sujet que nous avions envie de traiter à nouveau depuis longtemps. Et c'est vrai que l'opportunité de l'ouvrage collectif dirigé par Bruno Palier nous donne une très belle occasion de revenir sur ce sujet du travail que nous avions abordé. Si vous vous en souvenez, par des angles un peu spécifiques, et notamment le télétravail après le Covid, mais qui nous donne là l'occasion de reposer un certain nombre de sujets de fond. Donc, vous voyez son ouvrage derrière vous, je vous le montre de mon côté, qui est un ouvrage donc collectif, comme je vous l'indiquais. Juste pour peut-être contextualiser, avant de lancer les débats, on a effectivement vu le sujet du travail très en haut de l'actualité. Depuis, je l'indiquais, le Covid, avec tous les bouleversements qui ont été liés au télétravail, notamment liés au confinement, à toute la réorganisation du travail que cela a impliqué et les modifications qui en ont découlé, avec de nombreuses vagues d'actualité autour d'une part de l'épidémie de flemme qui sévirait en France, d'autre part la grande démission venant des États-Unis et se transposant en Europe, et puis évidemment la réforme des retraites où cette question-là a été au cœur de l'actualité, avec peut-être ce bémol, mais je laisserai Bruno Palier rebondir sur ce point, où peut-être on a travaillé beaucoup des retraites, mais peut-être pas beaucoup du travail, et qui a été un élément qui a été sur lequel beaucoup d'experts ont alerté. Et finalement, le travail, comme je l'indiquais, est dans l'actualité, mais finalement, que sait-on réellement du travail? Et donc, je remercie vivement Bruno Palier d'être avec nous ce soir parce que il fait œuvre de salubrité publique en posant ce sujet de fond sur le débat et nous permettant de dézoomer réellement, puisque cet ouvrage que vous voyez donc en fond d'écran, Que sait-on sur le travail, est le fruit, et Bruno Palier nous indiquera sa genèse, d'un travail de compilation de travaux d'une soixantaine de chercheurs sur cette question du travail, allant de son évolution jusqu'à ce qu'elle implique aujourd'hui dans l'organisation des entreprises, dans les modes de management. Et nous y viendrons dans la troisième partie de cet échange sur l'impact social, voire politique même, de cette question du travail. Donc, juste pour resituer, comme pour ceux qui assistent au dialogue pour la première fois, nous aurons un échange Bruno Palier et moi-même pendant 30 minutes. Et après, je vous demanderai de poser votre question dans le fil des discussions et je me chargerai de les transmettre et de les poser à Bruno Palier en essayant parfois de regrouper, mais en m'engageant dans la mesure du temps imparti à ce qu'on puisse répondre à toutes vos préoccupations. Donc peut-être pour démarrer, Bruno Palier, peut-être nous revenir sur la genèse de cet ouvrage et quels sont aujourd'hui les éléments structurants du rapport des Français au travail.
Alors, sur la genèse de l'ouvrage, donc c'est vraiment au milieu de l'hiver, du début du printemps 2023, que je me suis dit qu'il était important d'apporter dans le débat public un certain nombre de données, d'informations, de savoirs constitués après de longues enquêtes menées par des économistes, des sociologues, des anthropologues, des ergonomes sur le travail. Et pourquoi je me suis dit ça? Bah parce que, en fait, vous le savez, on parlait d'une réforme des retraites qui était moins une réforme des retraites qu'une réforme demandant aux Français de travailler plus longtemps. Et beaucoup de Français sont descendus dans la rue. Une majorité de Français a dit dans les sondages qu'ils n'étaient pas prêts à travailler plus longtemps dans ces conditions, dans les conditions qu'ils connaissaient. Et moi, j'ai trouvé que, voilà, il y avait une espèce de malentendu en France sur la question du travail, puisque une première réaction aux mobilisations contre la réforme des retraites, ça a été de dire épidémie de flemme, les Français veulent plus travailler, ils travaillent moins qu'ailleurs, etc. Et moi, je connaissais, ayant travaillé là-dessus, ayant été en contact avec beaucoup de collègues, que c'était pas le bon diagnostic. Le bon diagnostic, il est qu'au contraire, d'une part, les Français sont très attachés au travail, plus que dans de bien d'autres pays. Notamment quand on leur demande qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, bah, le travail est souvent en première place ou dans les trois premières places en France. Et c'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens. En revanche, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a un sentiment de déception, on va dire, vis-à-vis du travail, ou un sentiment parfois plus fort que de déception, c'est de fatigue, de sentiments de difficulté au travail, même dans de nombreux cas, un tiers à peu près de souffrance au travail, et qu'il fallait documenter ça, de façon à ce que le débat parte de ce que l'on savait et non pas de ce que l'on imaginait ou de ce que l'on projetait sur les Français. Donc pour ce faire, à partir du mois de mars, j'ai contacté les collègues qui travaillaient sur ces questions depuis très longtemps, à partir de grandes enquêtes comparatives européennes, à partir d'enquêtes plus concrètes dans des secteurs particuliers, auprès de professions particulières, en leur demandant s'ils étaient prêts à écrire un chapitre court, en fait. Donc on l'a vu, vous l'avez montré, c'est un gros ouvrage, mais il est constitué de 37 chapitres qui, eux, visent à être courts pour donner facilement accès aux principaux éléments de connaissances, de diagnostics que l'on a sur le travail. Juste pour présenter l'ouvrage, il est structuré en cinq grandes parties. Donc la première, c'est sur les conditions de travail, la qualité des emplois, sur les questions de santé au travail, les questions de sens au travail. La deuxième grande partie, et en gros, le bilan, il est plutôt médiocre, et sur certains points, il est même mauvais, mais on y reviendra dans la discussion. Deuxième grande partie, c'est essayer de connecter ces résultats-là à ce que l'on sait sur les modalités d'organisation et de management du travail en France. Donc, il y a plein de points de vue qui sont mis en exergue, aussi bien très macro que sur certains secteurs. Troisième grande partie, c'est sur l'impact de la digitalisation sur le travail. On a parlé du télétravail, mais il y a d'autres choses aussi, l'intelligence artificielle, ce que les machines font aux travailleurs, troisième partie. La quatrième, c'est sur, je dirais, les inégalités face au travail, la perpétuation d'un certain nombre de discriminations, hommes-femmes, mais pas seulement, problèmes avec les jeunes, les personnes handicapées. La dernière partie, j'ai voulu qu'on consacre plusieurs chapitres à ce qu'on a appelé les essentiels pendant le Covid, c'est-à-dire ces professions qui ont dû continuer de travailler hors de chez elles pendant le Covid. Donc on a appelé essentiel parce que ça veut dire que sans ces professions, sans ces personnes, on ne peut pas survivre et qui pourtant sont mal reconnues, mal rémunérées et connaissent souvent des conditions de travail difficiles, que ce soit du point de vue des horaires, de la rémunération ou des conditions physiques ou psychologiques du travail. Voilà un peu l'organisation et le but, et ça rassemble beaucoup, beaucoup de connaissances.
Justement, peut-être pour démarrer sur cette première partie, j'ai été interpellée par, vous le citiez, la situation médiocre de la France par rapport au travail vis-à-vis de d'autres pays européens, et notamment interpellée par deux chiffres, deux fois plus d'accidents du travail en France que la moyenne européenne et 2,5 fois plus de burn-out en France que dans la moyenne européenne. Donc, qu'est-ce qui explique cette situation médiocre, entre guillemets, de la France par rapport au travail?
Alors, si on veut fournir des explications, il faut tout de suite sauter sur la deuxième partie, en fait, de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise l'organisation du travail, les modes de management, et aussi, quelque part, la façon dont on a considéré le travail, dont on a traité, et certains disent maltraité, le travail en France. Donc, le premier point à dire, hein, c'est quand même de rappeler, ça, vous avez rappelé deux faits qui sont très marquants, mais il y en a beaucoup d'autres, en fait. Il y a beaucoup plus de Français qui sont appelés à soulever régulièrement des charges lourdes en France que dans d'autres pays, et c'est des chiffres qui ont augmenté, ne sont pas réduits. Alors, moi, je vois là en ce moment les débats qu'on a suite à l'ouvrage ou à d'autres débats. Il y a la croyance que les conditions de travail se sont améliorées, qu'aujourd'hui, c'est les machines qui font tout, etc. C'est pas vrai. En termes d'exposition aux situations pénibles, ça a augmenté. C'est en plein depuis les années 2010, et en termes de risques psychosociaux, d'inaptitude, etc., on est dans des situations assez élevées en France, donc résultat pas très bon. Alors, je ne détaille pas plus en termes de données, mais justement, on a beaucoup de chapitres qui donnent des informations objectivées, aussi bien à travers des grandes enquêtes qui interrogent le quotidien, les pratiques des personnes au travail, que de celles qui comptent les questions de santé. Alors, si la question c'est de savoir pourquoi on en est là, je crois qu'il y a différents, évidemment, différentes réponses à apporter. D'abord, du côté de l'organisation du travail, on s'aperçoit qu'on est en France dans des modalités d'organisation du travail qui ne vont pas forcément dans le sens de l'histoire, si le sens de l'histoire est donné par les moyennes européennes. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, on sait, il y a des grandes typologies de la façon d'organiser le travail. Donc, il y a le mode traditionnel, il y a le taylorisme, il y a le lean management et il y a les organisations apprenantes. Ce que l'on sait, c'est que au cours des 20-30 dernières années, les organisations apprenantes, donc qui visent à l'innovation, qui sont plus horizontales, qui font appel au point de vue, à la participation, à la co-construction avec l'ensemble des personnes qui participent à la production, eh bien, les organisations apprenantes sont en recul en France. Et ce qui est alors que ce n'est pas le cas dans la plupart de nos compétiteurs ou de nos partenaires européens. En revanche, ce qui progresse, c'est le lean management. Donc, vous connaissez le lean, hein, qui vient de cette approche japonaise qui vise à réduire les défauts, les stocks, le temps perdu, etc., et qui repose sur une relative autonomie des équipes pour essayer d'atteindre les objectifs que l'on s'est donnés. Le deuxième point que j'ai envie de faire, c'est bon, d'abord, on ne va pas vers l'apprenant, on ne va pas vers l'horizontalité. Le deuxième point que j'ai envie de faire, c'est que on va retrouver, quel que soit le mode général d'organisation du travail, des caractéristiques dans le type de management qu'on a en France, qui est en général, alors évidemment, vous allez me montrer plein d'exceptions, et il y a des exceptions, mais en général, on retrouve un mode de management très vertical. Donc, hiérarchie verticale, descendant. Donc, on voit bien que là, c'est un peu contraire à l'esprit de l'apprenant, hein, puisque l'apprenant, c'est aussi du bottom-up, c'est aussi de l'horizontal, du participatif. La deuxième chose qui caractérise le management, c'est la distance. Alors, la distance, c'est à la fois dans les bureaux, dans les professions, mais on a même un article qui documente le fait que les lieux où l'on définit la stratégie des entreprises, où l'on définit les objectifs des entreprises, est de plus en plus distant géographiquement des lieux de production. Ce qui sous-entend une méconnaissance des processus concrets de production, donc une distance concrète entre le travail prescrit et le travail réel, c'est des choses que l'on mesure. Alors d'autant plus distant qu'il y a une partie de ceux qui définissent les objectifs qui n'appartiennent pas à l'autre entreprise. En fait, c'est du conseil qui vient, qui fait 18 mois pour définir les stratégies, donner les objectifs et repart. Donc, ces choses qui sont données d'en haut, elles sont de plus en plus définies aussi par des chiffres, par des grands objectifs, management par les chiffres, et qui donnent l'opportunité de compresser les choses. Et c'est un point supplémentaire, c'est que ce qui caractérise beaucoup la production en France, c'est l'intensification du travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de mettre en œuvre de différentes façons des organisations du travail, du management qui permettaient de faire plus, de plus en plus de choses à de moins en moins de personnes. En gros, c'est une façon de le dire là. Et cette mise sous pression qui n'est pas seulement envers les salariés d'en bas de l'échelle, c'est que nous, on documente qu'il y a plus d'un tiers des cadres qui s'estiment sous pression. C'est-à-dire, on leur soumet des objectifs qu'il faut qu'ils transmettent, il faut qu'ils trouvent des arrangements, des organisations pour les mettre en œuvre. Donc c'est une pression descendante, vous voyez, en cascade qui part d'en haut, qui se traduit par une intensification du travail. Cette intensification du travail, bah, elle se traduit par une explosion des inaptitudes, une explosion des risques psychosociaux, par bah, des accidents du travail, mais pas seulement, puisque voilà, on est là. Alors, il y a notre bouquin, il y en a plein d'autres hein, qui le racontent, c'est le modèle de la hâte dans l'ouvrage qui vient de sortir. Ou le temps pressé, enfin des choses comme ça. Le dernier point que j'ai envie de dire là-dessus, c'est ma propre contribution à l'ouvrage, c'est de dire que, en fait, derrière tout ça, il y a une logique globale hein, qui est d'avoir considéré que le travail était un coût et qu'il fallait essayer de le réduire au maximum. Donc, vous le savez, si vous commencez à parler du travail avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, le mot coût va arriver très très vite. Le travail, c'est d'abord un coût, c'est ce qu'on nous explique depuis les années 80. Ça a été documenté, le coût du travail, quand on intègre la protection sociale, etc., est assez élevé en France. Je rappelle simplement que maintenant, le coût du travail français, il est équivalent, voire un peu inférieur au coût du travail allemand ou suédois, et que dans l'industrie, par exemple, manufacturière, le coût du travail français est inférieur au coût du travail allemand. J'y reviendrai éventuellement, mais toujours est-il qu'on a été principalement préoccupé par cette idée que le travail était un coût et qu'il fallait donc le réduire, ce coût. Il y a plusieurs façons de réduire le coût. D'abord, il y a l'intervention publique, c'est les exonérations de cotisations sociales, hein, c'est la principale action économique de la France, hein, c'est 78 milliards d'euros quand même là, en 2022 consacrés aux exonérations de cotisations sociales. Mais du côté des entreprises, On peut comprendre beaucoup des stratégies d'entreprise. Les délocalisations, bah, c'est lutter contre le coût du travail en allant faire ailleurs là où c'est moins cher. C'est l'externalisation, c'est d'essayer de trouver des sous-traitants qui feront un certain nombre de services qu'on faisait en interne, mais qui le feront à moindre coût. C'est aussi une des réponses pour lesquelles on a un taux d'emploi des seniors aussi bas. C'est que si vous discutez dans les entreprises, vous allez voir très vite que les seniors sont considérés comme les plus coûteux, puisqu'ils sont en fin de carrière, ils sont les plus rémunérés, et qu'on considère que leur coût est trop élevé par rapport à leur productivité, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait en matière de formation pour les seniors, en matière de conditions de travail, etc. Et puis la dernière chose, c'est pour ceux qui restent, ceux qui ne sont pas partis en externalisation, délocalisation ou en pré-retraite ou en rupture conventionnelle, ben on intensifie, on en fait faire plus de choses. Alors après, on le documente, ça, on le documente notamment dans notre partie sur la digitalisation, où on s'aperçoit que quand on regarde la façon dont on utilise les technologies en France, c'est vraiment pour intensifier le travail, pour faire plus de choses. Et c'est pour ça qu'on a pas mal d'auteurs qui parlent en fait de néo-taylorisme. On se retrouve dans plein d'endroits où en fait le but, ça va être d'essayer de décomposer la production en des tâches relativement simples, standardisées, on va mettre la pression et on va utiliser les machines pour le faire. Trois exemples. Dans l'industrie automobile, vous apercevez que les robots sont de plus en plus sophistiqués et apportent les pièces autour de l'ouvrier qui n'est plus que la main qui pose les pièces, mais du coup, il n'a absolument pas le temps de souffler, de se reposer parce qu'on lui apporte les pièces sans cesse. Et ça accroît effectivement l'intensité et sa productivité quantitative, mais ça l'épuise. Dans les entrepôts, on voit des caristes qui ont le casque qui leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre, etc. Donc là aussi, le cariste est devenu un bras d'une intelligence artificielle. On essaie d'accélérer les cadences. Et puis, vous pensez à une aide à domicile. L'aide à domicile, elle rentre avec sa tablette, elle borne et la tablette lui dit ce qu'elle doit faire. Donc, on est aussi dans le néo-taylorisme, dans le service à la personne. Voilà un ensemble d'illustrations qui montrent comment on a essayé de faire de la croissance en intensifiant le travail en France. Et je voudrais terminer par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'Allemagne ou sur la Suède. C'est-à-dire que l'Allemagne et la Suède, avec des coûts du travail totalement équivalents, n'ont pas eu les mêmes stratégies de croissance. Ils ont cherché à produire des choses qu'ils pouvaient exporter et donc vendre assez cher, voire très cher. La Suède, plutôt en jouant l'innovation, donc d'être sur des nouvelles frontières, de nouveaux produits, de nouvelles choses, qui nécessitent beaucoup de formation, beaucoup d'investissement en recherche et développement. Et là, ils dépensent beaucoup plus que nous en éducation, en formation, en recherche et développement. Et du côté de l'Allemagne, c'est une exportation de produits de très haute qualité, que ce soit dans la chimie, dans les machines-outils ou dans les voitures. Et là aussi, ça nécessite de considérer le travail non pas comme un coût, mais comme un atout dans lequel on investit en matière de formation, en matière de protection, parce que ce sont les travailleurs extrêmement qualifiés qui savent construire des voitures de très haute qualité. Voilà.
Alors, vous dressez un panorama qui fait quand même assez peur. La question que je me pose, donc pour résumer, hein, les caractéristiques du management, verticalité, distance, management par le chiffre, une digitalisation qui a vocation à plutôt accélérer ses défauts, d'une certaine manière, ou ses problématiques. En lisant votre ouvrage, Que sait-on du travail? On se dit qu'on sait tout, et en même temps, tout est bloqué. On a l'impression que ça bloque complètement et que malgré le fait que ces débats soient posés, qu'on ait conscience de ces sujets-là, qu'on ait des alertes permanentes sur le bien-être au travail, et on le voit hein, de manière ou très directe, interpersonnellement, mais de manière globale, aux chiffres que vous citez, de ces débats hein, qui se sont cristallisés dans la réforme de la retraite, de gens qui disent, et vous le citez dans votre étude, que je ne veux plus travailler à ces conditions-là et je veux m'arrêter parce que je ne tiendrai pas le coup dans ces conditions-là jusqu'à la fin. On va en reparler également de cette question des inégalités et cette question des professions dites essentielles au moment du Covid qui ont d'une certaine manière vite été oubliées dans la reconnaissance. Comment vous expliquez, malgré toutes les théories qu'on entend aussi sur le management, comment vous expliquez que malgré tout ce que l'on voit, ce que l'on sait et les impasses dans lesquelles on se trouve, les choses ne bougent pas et ça viendra peut-être à la partie des solutions, qui doit bouger et comment, quoi.
La première chose, c'est que vous dites un tableau bien sombre, effectivement, mais le tableau n'est pas complètement noir. C'est-à-dire que si je donnais des pourcentages tout à l'heure sur les cadres mis sous pression, par exemple, mais quand on compte, on va dire, les employés, une toute petite partie des ouvriers et une partie des cadres, on arrive quand même à une quarantaine de pourcents de travailleurs qu'on peut estimer préservés des contraintes, qu'elles soient quantitatives ou psychologiques. Voilà, c'est quand même, c'est pas le grand désastre absolument pour tout le monde. Il y a aussi des gens pour qui ça va plutôt pas trop mal. Et c'est pas que les cadres ou les très qualifiés ou très rémunérés. C'est pas aussi simple que ça, hein, encore une fois. La deuxième chose, tout n'est pas bloqué. Je disais, il y a des exceptions. Il y a des grands groupes qui ont des modes de management très différents. Il y a des petites boîtes qui ont des managements différents. Il y a des choses aussi, des scopes, etc., qui vont être beaucoup plus horizontales. Donc, encore une fois, je veux pas noircir le tableau. Mais dans la moyenne, dans la tendance, on est quand même dans des choses qui semblent absurdes, en fait, parce que ça abîme beaucoup de gens et en même temps, c'est pas hyper productif. Donc, c'est un peu. On a un article notamment qui dit que on voit s'éroder le management de proximité. Alors, on a fait aussi des économies sur le management de proximité. Et donc, on a cette distance croissante. Hein, on a moins de relais, si vous voulez, entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Et cette absence progressive de relais, elle se traduit en beaucoup plus d'absentéisme. Elle se produit en beaucoup plus aussi quelque part, de défaitisme. Et donc, c'est beaucoup d'argent perdu. Et comment Laurent Capelletti, qui a fait ce chapitre, le démontre, il démontre que quand on réintroduit du management de proximité, quand on négocie une partie de l'organisation du travail, des conditions de travail, etc., vous voyez l'absentéisme plonger, vous voyez la productivité augmenter, vous faites en fait des gains. Donc, l'idée de chercher à faire des économies, je dirais, sur le dos du travail n'est pas forcément une bonne idée du point de vue de l'entreprise. Alors, pourquoi on ne fait pas autrement? Ben, d'abord parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. La première chose que montrent beaucoup de chapitres, c'est que ce que je vous raconte, il commence à l'école, en fait. Cette verticalité, cette hiérarchisation, cette idée de, vous voyez, de tout doit descendre d'en bas, c'est ce qu'on a appris à l'école, aussi bien dans le rapport prof-élève que dans les relations entre élèves eux-mêmes. Vous savez, il y a des élèves qui vont être considérés comme bons à partir de l'école maternelle à peu près, puis on va essayer de les emmener jusqu'aux plus grandes écoles, et c'est eux qui vont décider les choses. Et puis les autres, on va leur apprendre à écouter et baisser la tête pendant très longtemps. Et ce système très vertical, qui est assez caractéristique du système scolaire français, pas que, mais très, très, très fort, eh bien, il se transcrit dans l'entreprise. Donc il y a déjà une révolution à faire à l'école. Pas sûr qu'on soit dans cette tendance-là, plus horizontale, plus mixte, aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que pour changer de mode de management, il faut peut-être aussi changer de stratégie économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à penser d'autres modes de développement pour les entreprises que celui qui consiste à essayer de réduire tous les coûts, et en particulier le coût du travail, pour tirer un certain profit? Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'on a les ressources pour essayer de faire du profit sur la qualité, sur l'innovation, vous voyez, sur d'autres choses? Et là, on voit d'abord qu'on manque de compétences. Une des raisons pour laquelle on parle du travail aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de métiers en tension, mais il y a deux sources de la tension sur les métiers, c'est-à-dire les difficultés qu'on a à recruter. Pour ce qui est des métiers relativement mal rémunérés, c'est les conditions de travail qui créent de la tension, les horaires atypiques, donc ça c'est tourisme, restauration, aide à domicile, etc. Mais pour ce qui est de l'industrie et de la tech, c'est un problème de compétences. Donc on manque de compétences, ça c'est une première chose. Pour pouvoir passer à autre chose, il faut aussi avoir vraiment un investissement national, là, très important en compétences. Et vous le savez, on dépense moins que les autres en éducation supérieure et en formation. La deuxième chose, pour pouvoir innover, il faut de la recherche et développement. Et là aussi, on dépense beaucoup moins qu'en recherche et développement. Donc on pourra structurellement changer de mode de management quand on aura aussi des conditions de passer à autre chose en termes de stratégie économique. En attendant de faire ça, il y a quand même la possibilité d'aménager un peu les façons d'organiser le travail et le management. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en exergue aussi. On montre les contrastes qu'il y a, par exemple, dans la façon de faire du lean en France et de le faire en Suède. On a un chapitre qui est passionnant sur le lean dans l'aéronautique, excusez-moi, qui montre que ça a permis effectivement plus d'autonomie, plus d'initiative, plus de négociations en Suède dans la production d'avions, alors qu'en France, ça a été extrêmement hiérarchique, avec certes des réunions et des équipes autonomes, mais surtout pour vérifier qu'ils avaient atteint les objectifs. Et à l'occasion des différents débats autour du bouquin, il y a un travailleur syndical qui a témoigné exactement la même chose. Il a dit, moi j'ai fait 10 ans de Lean chez Sony en France, mais c'était Sony, donc c'était à la japonaise, et c'était vraiment très apprécié des salariés. Il y avait vraiment l'impression d'avoir voix au chapitre, de pouvoir être pris en compte de contribuer, une fierté de la production, etc. Et ensuite, il est passé dans une entreprise française dont je tairai le nom pour faire du lean. Et là, ça a été la verticalité, ça a été le descendant, etc. Donc voilà, c'est vraiment ces caractéristiques-là qu'il faut essayer d'apprendre à dépasser. Dépasser ce qu'on a appris à l'école, dépasser le sens de la supériorité, dépasser l'idée que je sais tout et ils savent rien. Voilà, c'est des enjeux plus que culturels, c'est des enjeux très fondamentaux.
Alors peut-être avant de passer aux questions, parce que je vois qu'elles commencent à être nombreuses sur le fil de discussion, j'ai peut-être juste avoir terminer par ce que vous dites qui me semble particulièrement important dans votre ouvrage et qui montre la place du travail. Vous soulignez dans certains chapitres de l'ouvrage le fait que l'impact de la relation au travail sur le social et le politique notamment. En indiquant que l'absence de reconnaissance des problèmes rencontrés au travail génère un ressentiment social qui débouche souvent sur un ressentiment politique. Donc, je pense que si vous voulez bien commenter ce dernier point avant qu'on passe aux questions, parce qu'il me semble être fondamental dans l'importance des évolutions que vous soulignez comme devant être mises en œuvre et le fait que la question du travail n'est absolument pas déconnectée de tout un ensemble, du corps social dans son ensemble.
La première chose, c'est que l'évolution du marché du travail, de la production, de l'organisation du travail, génère cette tendance à ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail, c'est-à-dire l'émergence croissante de métiers très bien rémunérés à haute responsabilité. Il y en a de plus en plus en France comme dans beaucoup de pays. Et puis, il y a aussi l'émergence et la montée en nombre de métiers très mal rémunérés, atypiques, assez précaires. Vous savez, on a une façon de présenter les choses en France qui est un peu trompeuse, puisqu'on dit un SMIC est équivalent temps plein. Donc, on peut faire croire que beaucoup de gens sont à 1200, 1300 euros. Beaucoup de gens sont à 50% du SMIC, c'est-à-dire qu'ils gagnent de leur travail 600 euros. Et c'est plutôt des femmes, plutôt dans le milieu des essentiels, dans les professions essentielles dont on parlait tout à l'heure. Donc, cette polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu, il y a une pression croissante. Au milieu, vous avez le risque croissant de voir votre emploi disparaître et de tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, suivant votre niveau de formation, suivant les entreprises dans lesquelles vous êtes, ça va déterminer de quel côté vous tombez. Mais ce que l'on montre, documente dans le livre, c'est qu'en numérique, les classes moyennes ne se réduisent pas. En revanche, quand on regarde les conditions de travail et les conditions d'emploi des parties les moins aisées des classes moyennes, on s'aperçoit qu'il y a une montée des contrats de travail à durée déterminée, d'horaires décalés, de réduction d'un certain nombre de protections, qui donne un sentiment de déclassement et d'insécurisation pour les classes moyennes inférieures. Donc ça, c'est un premier point, et j'y insiste, puisque les classes moyennes les moins aisées, c'est le vivier électoral croissant des partis de droite radicale dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis. Alors je dis, c'est le vivier croissant, parce qu'il y a d'autres électorats qui votent pour les partis d'extrême droite. Pas tous, mais une partie artisan-commerçant, une partie boutique, enfin, il y a différents groupes professionnels, mais les classes moyennes les moins aisées sont en fait de plus en plus à voter pour les partis droite radicale. Ce n'est pas du tout spécifique à la France, c'est ce qu'on trouve. Or, quand on regarde plus dans le détail le ressenti au travail d'une partie de ces personnes, il y a d'abord ce risque de déclassement. Un jour, je vais perdre mon emploi. J'ai de moins en moins issus de mon travail en termes de perspectives, de rémunération, etc. Et en plus, j'ai le sentiment de ne pas exister au travail. C'est-à-dire que je suis traité comme une variable d'ajustement, comme un numéro, comme un pion. Je vous reprends des expressions obtenues dans des observations, hein, des entretiens. Voilà, je suis un pion, je suis traité comme un numéro. Et donc, on ne m'écoute pas, je ne peux pas donner mon avis, je ne peux pas faire preuve de mon savoir-faire, en fait, et je ne suis pas reconnu. D'accord? Donc, je ne suis pas écouté, je ne suis pas reconnu, et il y a un sentiment d'exclusion au travail, alors même que j'ai un emploi. Mais je ne suis pas considéré comme un acteur productif et capable de participer à la décision, à la production, etc. Et donc, il y a une perte de la fierté au travail, de sentiment de reconnaissance, etc. Et on va trouver de plus en plus de gens qui vont avoir ce sentiment d'exclusion au travail, absence d'écoute et de reconnaissance, et qui vont vivre le même sentiment dans le débat public. C'est-à-dire, on ne parle jamais de moi, on ne s'occupe jamais de moi, on s'occupe soit des très riches, des élites, de ceux d'en haut, soit on s'occupe, alors c'est les expressions françaises, les cas sociaux, les migrants, etc. Donc c'est plus ou moins vrai, mais en tout cas, c'est le discours que construit l'extrême droite, hein, de dire, vous voyez, vous êtes complètement négligé par le haut et vous êtes en fait, comment dire, négligé aussi en faveur de ceux qui sont en dessous de vous. Et ce parallélisme qu'on peut faire entre le vécu au travail et le vécu dans le débat public peut permettre d'expliquer la montée du vote Rassemblement national en France. Mais dans le... Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une des causes de ce vote, s'il est moins culturel, c'est-à-dire xénophobie, etc., qu'il est la conséquence sociale et politique de ces modes de management, d'organisation du travail, de type de stratégie économique dont on parle depuis le début de notre dialogue.
Là, merci beaucoup. Bon, je vais arrêter de monopoliser la parole et je vais commencer à vous poser les nombreuses questions qui apparaissent donc dans le fil de discussion. Alors, je commence par une première question de Catherine. Vous êtes-vous intéressé aux messages envoyés par les actionnaires et les investisseurs aux dirigeants sur les sujets sociaux? Sont-ils à la source de cette pression financière en n'ayant pas d'intérêt pour le sujet social comme ils peuvent en avoir pour le climat?
Alors, on a un chapitre qui souligne un paradoxe, qui montre que on ne peut pas dire qu'il y a une plus grande intensification du travail, une plus grande mise en difficulté du travail, plus l'entreprise est financiarisée. Alors, un des indicateurs, c'est qu'on n'a pas beaucoup plus de conflictualité, donc de mouvements sociaux, de grèves, mais aussi d'absentéisme, etc., à mesure que la financiarisation augmente. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que c'est explicable par la financiarisation, donc la demande de résultats, etc. Et on revient à des explications plus traditionnelles de mode de management vertical, etc. Donc, ça, c'est un premier point sur le rôle des actionnaires dans la transformation du marché du travail. Tout se passe comme si. Alors, une des choses qui est claire, c'est que la financiarisation, hein, plus une entreprise appartient à des actionnaires qui sont externes et qui attendent un retour, plus vous allez avoir d'externalisation. En fait, l'entreprise va se concentrer sur le cœur de métier. Donc, ça peut dire que la délégation de la pénibilité par l'externalisation vient de la financiarisation, mais c'est en indirect. En revanche, on ne peut pas dire que voilà, ce soit une des grandes explications de l'intensification du travail. Vous avez remarqué d'ailleurs que je ne l'ai pas mise dans ma réponse à votre question de pourquoi. En revanche, le fait que ça descende du conseil d'administration à la stratégie, etc., ça participe du système qui est mis en place, effectivement.
Une question sur.
Alors, excusez-moi, parce que du coup, la sensibilité RSE, donc moins sociale et plus environnementale, on n'a pas forcément de chapitre qui documente ça précisément, mais il y a quand même l'idée que les deux vont de pair, souvent les deux sont présentés, c'est-à-dire c'est soit il n'y a pas, soit il y a des tentatives d'avoir un peu les deux, en tout cas on va dire les 10 dernières années.
C'était effectivement une des questions, c'est est-ce que on voit évoluer à la hausse la motivation, le lien entre travail, motivation au travail et enjeu planétaire. Mais du coup, peut-être vous avez répondu à cette question à travers.
Là, si la question elle porte de la part des travailleurs, c'est-à-dire est-ce que ça compte dans ma motivation, ma décision d'aller vers une entreprise, etc., le fait que l'entreprise ait des préoccupations environnementales et ces préoccupations se traduisent par des transformations du mode de production, la réduction d'émissions, etc. Ce que l'on montre, et souvent dans le débat, on dit que les jeunes sont plus sensibles que les moins jeunes à ces questions-là, et on a un chapitre et quelques autres qui font allusion, mais qui montrent que les jeunes ne sont pas très différents des autres travailleurs en termes d'attente. C'est-à-dire que certes, les enjeux environnementaux sont importants pour les jeunes, mais pas à peine plus que pour les autres générations, et surtout que les jeunes, ils ont aussi d'autres préoccupations de conditions de travail, d'horaire, de carrière, de rémunération, d'intérêt de leurs propres tâches, au même titre que, et de vacances, au même titre que les autres salariés. Nous confirmons ce qui, vous l'avez vu, beaucoup d'entre vous, je pense, sont sur LinkedIn, il y a de plus en plus d'études très approfondies qui confirment que les jeunes sont des travailleurs comme les autres en termes de rapport au travail et d'attente vis-à-vis du travail, qu'il n'y a pas une grande rupture générationnelle et que si on ne leur promet pas la lune écologique, ils ne viendront pas. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Alors, deux questions que je vais peut-être regrouper. Vous avez parlé de 45% de travailleurs qui vont bien, donc qui sont-ils? Pour bien comprendre ce qui fonctionne et peut-être le regrouper avec une question sur est-ce qu'il y a un ou plusieurs secteurs d'activité qui sortent leur épingle du jeu? Est-ce que voilà, ceux qui vont bien, cela correspond à des secteurs particuliers ou au contraire vraiment spécifiquement, comme vous l'évoquiez, un mode de management particulier? Vous évoquiez dans l'ouvrage la question des entreprises apprenantes, où il y avait, on voit qu'on est dans des relations au travail qui ne sont absolument pas les mêmes et qui font la différence. Donc,
D'abord,
ce sont ces 45%.
ouais, c'est 40, hein. Pas 45, c'est
40.
40. Et ça, c'est dans une typologie qui est faite à partir de l'observation des conditions de travail des plus de 45 ans, donc des seniors. Dans quelles conditions se passe la deuxième partie de carrière? Et donc, c'est le chapitre d'Annie Jolivet et qui montre qu'il y a environ 40%, mais un tout petit peu moins, de travailleurs qu'elle appelle catégorie les préservés, c'est-à-dire préserver des contraintes physiques et préserver des contraintes pression psychique, faire du chiffre, etc. Donc ça veut pas, moi je dis préserver, hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont bien forcément, mais en tout cas c'est pas non plus le travail le plus difficile. Quand j'insiste sur préserver, ça veut dire que ce n'est pas forcément là où il y a de l'apprenant, où il y a de l'implication, etc. Mais en tout cas, on ne met pas la pression. Alors, je vous renvoie à ce chapitre-là parce que ce n'est pas dans un secteur particulier, parce qu'il y a différents types d'entreprises dans un secteur, etc. On va trouver de la qualification, on va trouver de la tech, on va trouver plutôt du service, plutôt de l'administration, pas forcément dans le public d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de dégradation dans un certain nombre de services publics. On pense évidemment à l'hôpital, mais il y en a d'autres. Donc voilà, vous voyez, je dis il y a dû, au sens où c'est un mix et il vaut mieux regarder le chapitre pour avoir le détail. Deuxième point par rapport à ce que vous rajoutiez à la question, c'est qu'on ne peut pas faire un lien direct entre mode d'organisation et mieux-être, hein, puisque comme je le disais, le lean, quand il est fait à la japonaise, visiblement, il est à la fois plus productif et beaucoup plus apprécié des travailleurs que quand il est fait à la française. C'est les deux anecdotes que je disais. Et c'est la même chose pour l'apprenant. Sur l'apprenant, vous arrivez quand même à des situations un peu étranges où vous avez de l'apprenant où en fait on croit qu'on est en train d'apprendre, mais on se réunit tous les jours pour lire le tableau Excel des résultats ensemble. Et donc oui, il y a un moment qu'on passe ensemble, mais ce n'est pas forcément ce moment de remontée, de codécision, de participation, etc. Ce n'est pas non plus forcément l'organisation de ces moments, de ces temps où je suis dans la proposition d'innovation, dans je suis la participation de faire avancer la chose. Mais il y a des entreprises qui le font.
Une question qui concerne plutôt le statut. Beaucoup de jeunes perçoivent le statut d'indépendant plus adapté à leur vision de collaboration avec l'entreprise plutôt que salarié. Alors, première question, est-ce une tendance que vous avez aussi remarquée? Et la deuxième, est-ce que la maturité des entreprises françaises le permettrait-elle?
Alors, quand on dit beaucoup de jeunes, le problème, c'est qu'il y a pas les jeunes sont très divers en termes de milieux sociaux, en termes de compétences, en termes de secteurs, etc. On n'observe pas, si vous regardez les auto-entrepreneurs, si vous regardez des situations de freelance, on n'observe pas que ça soit plus marqué chez les jeunes, en tout cas par choix. On a donc ce chapitre sur les jeunes. Il démontre que la précarisation sur le marché du travail, c'est-à-dire l'augmentation d'auto-entrepreneurs plutôt mal rémunérés et pas forcément complètement indépendants, de CDD, etc., ça rentre par les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes sont plus souvent que les autres dans ces situations-là et ça dure un petit peu, mais il est difficile de dire que ce soit par choix puisqu'on voit que c'est corrélé avec un niveau relativement faible et de rémunération et de compétences. Donc, ce n'est pas forcément des situations choisies que celles de l'indépendance. Après, il y a la deuxième chose, c'est on a essayé de regarder aussi, vous le savez, le travail sur la plateforme, etc. Mais que ce soit de Uber ou que ce soit des micro-tâches, on a très très peu de gens qui vivent de ça. D'abord, il y a très peu de gens qui travaillent pour Deliveroo, Uber, etc. C'est vraiment un faible pourcentage sur le marché du travail. Et ceux qui gagnent, c'est souvent des revenus de complément. En fait, on va en trouver chez les cadres comme chez les personnes peu rémunérées. Donc, de là de dire que c'est un nouveau mode de vie, un nouveau mode de relation au travail, on en est loin statistiquement en tous les cas.
Alors, j'ai une question sur le niveau de connaissance des enjeux que vous évoquez, en tout cas des sujets que vous évoquez par rapport à ce que l'on sait du travail chez les dirigeants, notamment les DG, DRH, voire même le gouvernement.
Question délicate, j'espère pas perdre trop de personnes dans le public. Moi, on m'a dit que la typologie que je vous ai présentée d'organisation du travail, c'était une connaissance de base effectivement enseignée dans les écoles de commerce. Donc j'ai essayé de questionner, j'ai regardé les programmes d'enseignement à l'EMI, l'école de management et d'innovation de Sciences Po. Oui, c'est vrai, à HEC aussi, c'est vrai. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la connaissance de la chose. Après, de la connaissance à la mise en œuvre, il y a une première question. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on le fait avec un souci d'innovation, d'horizontalité, de participation, ou est-ce qu'on le fait à la française, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a deux questions qui se posent là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'ouvrage que je fais obtient une très bonne réception dans pas mal de milieux professionnels. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à établir un dialogue avec des dirigeants d'entreprise sur ce travail. Ils semblent ne pas vouloir, alors ils le reçoivent puisque je renvoie, mais ouvrir le livre et se lancer dans un dialogue. Alors moi, j'ai écrit une tribune dans Le Monde il y a quelque temps à ce propos, c'est de dire qu'en fait, les questions de l'organisation du travail et du management, ça a été construit en France comme étant la propriété du patronat. Et donc le patronat, il décide, il fait et il ne partage pas avec les autres, il n'en discute pas. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le Yalta implicite après la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement fait des politiques économiques, mais ne se mêle pas la vie des entreprises. Les syndicats gèrent la protection sociale et en partie la formation professionnelle. Et le patronat, il s'occupe de l'entreprise, de l'organisation du travail, etc. Et on n'a pas envie de forcément que ça change complètement. Du coup, bah, je ne suis pas sûr de savoir ce qui se sait. Ce que je sais, c'est que les portes sont restées fermées.
Fou. Une autre question, comment remettre au centre la qualité et les conditions de travail sans mettre en péril la compétitivité des entreprises face notamment à
Eh
la pression
ben,
externe, internationale, sur les coûts, etc.
bah, puisque on parle de compétitivité, c'est très connu en économie internationale. Il y a deux types de compétitivité. Il y a la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. Quand on a un niveau de développement qui est celui de la France, un niveau de dépenses publiques qui est celui de la France, ça paraît assez étrange de choisir la compétitivité coût. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la compétitivité coût, on comprend bien que c'est l'atout. Ça a été pendant longtemps l'atout de la Chine, mais même la Chine ne joue plus ça. Maintenant, la Chine joue la montée en gamme, l'innovation, la technologie, etc. Et nous, on n'arrive pas à penser autre chose en termes de compétitivité que être le moins cher possible. Et c'est tout à fait paradoxal pour un pays qui est si cher en matière de protection sociale. Et si on était vraiment cohérent avec l'idée qu'il faut qu'on soit vraiment moins cher pour acquérir notre compétitivité, bah, il faudrait sacrément descendre les rémunérations, les niveaux de dépenses sociales, etc.
Je vais partir d'une question qui est peut-être particulière et puis à la regrouper avec une autre question plus large. L'actualité de jour qui propose de revoir les conditions de perception du chômage peut-elle accentuer ces problèmes que vous avez évoqués? Et plus largement, si on se place d'un point de vue prospectif, quels sont les dangers qui nous guettent si la situation du travail telle que vous la présentez ou telle qu'elle est, le constat que l'on fait aujourd'hui n'évolue pas?
Voilà, moi, je vais commencer par les dangers. Je crois que j'étais assez explicite. Le danger, il nous attend en 2027. Hein. Enfin, si on considère que l'arrivée d'un parti qui n'a pas toujours été républicain au pouvoir est un danger, bah, voilà, c'est ça qui nous guette. Pour moi, c'est assez évident. Et moi, je travaille en sciences politiques vraiment à essayer de démontrer qu'il y a beaucoup de choses qui naissent au travail. C'est-à-dire l'insatisfaction, les choses, et pas qu'en France. Vous le savez bien, Trump, il a beaucoup de succès dans la rural belt, dans les milieux ouvriers, qui peut avoir ce ressenti-là. Le Brexit a été porté par ça, enfin, on peut le démontrer, donc de ramener un peu. Donc, voilà les dangers qui nous guettent, et sont beaucoup plus proches que les pertes de compétitivité, les pertes de parts de marché, etc. Donc, ça, c'est la première réponse. Moi, sur les annonces qui ont été faites aujourd'hui par Gabriel Attal et les réformes successives du chômage, ça pose la question de quelles sont les interprétations du chômage. Pourquoi on a du chômage en France? Moi, ce que je sais, c'est que les experts, les économistes et les gouvernements, pour la plupart d'entre eux, nous ont expliqué qu'on avait du chômage parce que le travail était trop cher. C'était pour ça l'explication du chômage. Et d'ailleurs, l'explication de notre absence de compétitivité à l'international, c'était la même cause, c'est parce que le coût du travail est trop élevé. C'est pour ça qu'on a eu le chômage et c'est pour ça qu'on n'exporte pas. Dans un premier temps, moi, je tiens à rappeler qu'avec un coût du travail équivalent, la Suède ou l'Allemagne ont, un, une capacité d'exporter, deux, pendant longtemps, ils ont eu moins de chômage que nous. D'accord? Je dis bien pendant longtemps, ils ont eu, pendant 20 ans, c'est plus tout à fait la situation, en tout cas pour la Suède aujourd'hui, mais il reste que, faudrait voir si c'est la bonne équation. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui sont au chômage les personnes les moins qualifiées. Donc, est-ce que la qualification et les compétences, c'est pas une partie de l'explication du chômage? Et je sais qu'il y a des métiers en tension. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels les employeurs n'arrivent pas à trouver des salariés. Encore une fois, je le disais dans l'industrie, la tech, c'est clairement des problèmes de compétences, mais il y a aussi des problèmes d'attractivité, donc de conditions de travail. Et si on veut résoudre la question du travail, du chômage, pardon, est-ce qu'il faut continuer à croire à la théorie du chômage volontaire? Gabriel Attal, il continue de croire à la théorie du chômage volontaire, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des règles trop généreuses du côté des allocations chômage que des gens continuent d'être au chômage. Donc ils sont volontairement, c'est entre guillemets, hein, volontairement, c'est qu'on leur permet de rester au chômage en ayant des règles et des prestations trop généreuses, trop longtemps et trop généreuses. Et donc si on les réduit, alors le chômage baissera. Est-ce que c'est la bonne interprétation? Est-ce qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui d'autres interprétations possibles? S'il y a des secteurs où on reste sans candidat, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes d'attractivité, donc de conditions de travail, d'horaire, etc., et d'autre part, des problèmes majeurs de compétences.
Peut-être avant de rebondir sur la question des compétences et de l'éducation, il y a une question qui est posée là sur les femmes. Concernant les femmes et le travail, avez-vous une analyse spécifique, des analyses spécifiques les concernant?
Alors, on a quatre chapitres sur les inégalités hommes-femmes, sur l'égalité professionnelle, etc. Parce que maintenant, on a vraiment énormément de savoir constitué. Et là, pour le coup, on retrouve un peu le désespoir que vous disiez tout à l'heure. On sait tout et ça reste bloqué. Donc, on a un chapitre même qui dit pourquoi ça coince encore. On a un autre chapitre, pourquoi on n'arrive pas à exploser le plafond de verre. Et bon, il y a une multitude d'explications, mais on a, vous le savez, des explications un peu structurelles. C'est que c'est les femmes qui portent la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Et donc, tant qu'on n'a pas réussi à organiser le travail de telle façon que la vie familiale puisse être plus aménageable, plus compatible, bah, c'est les femmes qui payent les pots cassés. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut repenser l'organisation du travail. Donc là, on a des choses très simples, hein. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des réunions après 16h30 ou 17h30? Là, très clairement, c'est discriminant. Est-ce qu'on a suffisamment de crèches aussi? Ça, c'est des questions, hein, qui permettent de résoudre les mécanismes qui génèrent des inégalités professionnelles, alors même que les femmes sont plus diplômées aujourd'hui que les hommes. Et puis à la maison, parce qu'on parle beaucoup d'égalité professionnelle en parlant des entreprises, de l'organisation du travail, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que la répartition des tâches est égalitaire? Et de plus en plus de travaux montrent que si la répartition des tâches à la maison n'est pas plus inégalitaire, on aura énormément de mal à avoir l'égalité professionnelle. Si c'est toujours les femmes qui prennent les congés parentaux les plus longs, si c'est toujours les femmes qui s'arrêtent quand les enfants sont malades, si c'est toujours les femmes qui disent c'est 16h30, donc il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, c'est-à-dire le reflet de la division des tâches à la maison, alors on n'arrivera pas à changer énormément de choses de ce point de vue-là. Voilà, il faut continuer à le répéter, ça c'est des choses qu'on sait depuis longtemps, mais il faut le répéter jusqu'à ce que ça change. Et ça change un petit peu, mais pas très vite.
Non. Une question sur le secteur culturel. Le secteur culturel à grande valeur symbolique repose sur le bénévolat, la précarité financière des travailleurs et subit un management souvent délétère. Ne devrait-on pas proposer une éducation au management obligatoire, tout secteur confondu?
Bah, moi, je pense que ce que je disais sur le système éducatif, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des cours spécifiques de management, mais si on avait une école qui fonctionnait autrement, c'est-à-dire qui soit beaucoup plus ouverte à du temps d'initiative, à la créativité des élèves, si on se donnait des objectifs plus égalitaires, faire en sorte que les écoliers, que les collégiens réussissent tous et non pas seulement hiérarchiser entre les bons élèves et les mauvais élèves, peut-être qu'on aurait déjà des principes de management qui seraient mieux. Voilà. Après, la question, elle porte aussi sur un fait, c'est que Pendant longtemps en France, on a promu manager des gens qui étaient des bons producteurs, sans forcément leur apporter les formations, les compétences spécifiques qui sont nécessaires d'acquérir quand on devient manager. C'est un métier, c'est des choses qui s'apprennent, et il y a beaucoup de formations qui existent, mais ce n'est pas forcément le réflexe qu'on a eu. Alors maintenant, on n'est pas forcément toujours dans cette situation-là parce qu'on embauche aussi des managers qui ont été formés en tant que tels. Je parlais du conseil, je parlais des écoles de commerce. Alors là, est-ce qu'on a la bonne formation dans ces endroits-là? Je ne sais pas. Votre question, elle démarrait sur le secteur culturel, mais après, elle débordait sur l'associatif. Je crois qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à but lucratif, qu'on est dans le bénévolat, que le management est par définition meilleur, pas forcément, et notamment parce qu'il n'y a pas forcément les bonnes formations. Puis il y a aussi beaucoup de contraintes, budgétaires notamment, et puis il y a aussi l'idée que puisque c'est pour la bonne cause, on peut demander un certain nombre de choses et qui posent problème aussi.
Par rapport à cette question de formation compétences, une question qui est posée ici, mais peut-être que je vais rebondir cette question, qui pose la question est-ce qu'il ne faut pas plus de compétences dans l'accompagnement au changement? Et alors peut-être parce que peut-être si vous pouvez clarifier un peu en tout cas nous donner votre vision de tous ces concepts très différents qu'on entend. Management, accompagnement du changement, coaching, voilà, comment tout ça, enfin, comment toute ces termes, ces approches se cohabitent et apportent quelque chose à cette situation du travail.
Moi, je ne suis pas assez spécialiste en sémantique managériale pour pouvoir distinguer le sens et la sémiotique des différentes terminologies. Moi, je peux juste vous dire un truc, c'est il y a des mots qui sont des concepts signifiants de la réalité qui restent permanents, c'est la verticalité. C'est délétère dans un monde où il y a de plus en plus de connaissances, où la compétitivité, la qualité de la production, elle repose sur les qualifications. Et donc, considérer qu'on doit continuer à être dans un système où seulement ceux d'en haut savent et décident, c'est contraire à la logique économique. Pas seulement une logique politique ou une logique sociale, c'est contraire à ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et effectivement, quand on regarde le taux d'éducation de la population, même s'il n'est pas hyper élevé par rapport à d'autres pays en France, il augmente. Et donc, continuer à être dans cette verticalité, qu'elle soit coachable, managériale ou je ne sais pas quoi, ça c'est problématique. De même, est problématique le management uniquement par les chiffres, hein, l'excellisation de l'organisation et du management, c'est quelque chose dont il est démontré dans plusieurs chapitres de notre ouvrage, qu'il fait perdre du sens au travail, qui fait baisser la tête dans le guidon, comme on dit, je suis sous l'eau, etc., avec tous ces objectifs à atteindre, et que c'est délétère aussi, pas seulement pour les personnes, mais en fait pour la productivité, pour l'entreprise. Le problème, c'est que ce dont je parle, c'est toujours le chapitre de Laurent Capelletti, c'est des coûts cachés, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne mesure pas, c'est-à-dire l'absentéisme par exemple, hein, ou la baisse de productivité, et qu'on ne peut mesurer que si on contraste avec quand on a du management de proximité, quand on a de la négociation, quand on a la prise en compte, etc.
Alors j'ai une question sur les solutions, parce qu'on va peut-être, comme on arrive aux 5 dernières minutes, on va essayer d'aborder des choses un peu positives pour terminer. Est-ce qu'une solution serait d'avoir une plus forte représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises?
Alors, ça paraît assez évident, en tout cas pour ce qui est de la représentation formelle dans les conseils d'administration, conseils de surveillance et des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de la Suède, de l'Allemagne. Comme vous savez, dans ces pays-là, dans les conseils d'administration, en Allemagne, pour beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises, à partir d'un certain seuil, vous avez 50% des membres du conseil d'administration qui sont constitués par des représentants des salariés. Et ça change énormément les dynamiques. Dans les deux sens, c'est-à-dire que les salariés sont mis en responsabilité de prendre des décisions qui préservent l'entreprise, qui la développent, qui lui permettent de faire de la croissance, des résultats, etc., de ce côté-là. Mais ça implique aussi que les décisions qui sont prises ne sont pas contre l'intérêt des salariés, les conditions de travail, etc. Donc ça amène des choses comme ça. Donc ça, c'est assez évident quand on contraste la gouvernance d'entreprise formelle, hein, les conseils d'administration, que plus vous avez de représentants de salariés, plus vous avez, ou moins vous avez ce type de stratégie d'intensification. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais vous en avez moins. Deuxième chose que l'on sait, c'est plus le taux de syndicalisation est élevé, moins vous avez aussi ce type de choses et plus vous avez de possibilités d'amélioration des choses. On a peut-être un peu trop tendance à considérer en France que les syndicats sont contre l'entreprise ou contre une direction d'entreprise. Il y a beaucoup de cas qui pourraient l'illustrer et le confirmer, mais ce n'est pas ce que les statistiques comparatives montrent. Le taux de syndicalisation ne va pas forcément contre l'intérêt des entreprises. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas seulement en haut dans les conseils d'administration. La question, c'est aussi de savoir est-ce qu'on est capable de créer des lieux, des instances, des moments d'interaction où ceux qui sont à la production, que ce soit des biens ou des services, hein, aient leur mot à dire. Au moins espace d'expression, mais si possible, avoir son mot à dire dans la définition de ses propres tâches, voire dans la définition de l'organisation de l'équipe, voire du service, voire un peu plus. Et ça, c'est très clairement une demande de la plupart de nos chapitres, et en même temps, pas très clairement de comment on fait. Et donc ça, pour moi, c'est un grand point d'interrogation, ça, on ne sait pas encore, on ne sait pas bien faire, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire au travail. On a une expérience des lois aux roues sur lesquelles on n'est pas clair de l'évaluation, pourquoi ça s'est petit à petit délité, il y a différentes interprétations possibles. On a évidemment une analyse en cours des conséquences de la disparition des CHSCT, qui était un espace de substitution de lieux de manifestation d'un certain nombre de problèmes et de discussions autour de l'organisation du travail. On a une évaluation assez claire que les CES ont des ordres du jour tellement compacts qu'on n'arrive pas vraiment à parler, à échanger, à en faire un moment productif. Mais de savoir qui. Est-ce que c'est des représentants élus de salariés? Est-ce que c'est des représentants désignés? Est-ce que c'est forcément des syndicalistes, hein, vous voyez, qui vont prendre la parole, participer aux décisions? Ce n'est pas clair. Donc, pour résumer, il y a une demande de plus de démocratie en entreprise, si je puis dire. Mais même quand on s'adresse aux syndicats ou aux chercheurs et aux experts, on n'est pas clair dans la façon dont on doit le faire. Donc ça, c'est vraiment un champ d'exploration, en fait, de la façon dont on pourrait mettre ça en œuvre.
Alors, il me reste 2 minutes. J'ai deux dernières questions. Alors, la première, c'est quelle serait l'action prioritaire selon vous à mettre en œuvre pour faire évoluer la situation?
Pour moi, il y en a deux structurelles, c'est-à-dire c'est une action qui peut se décréter en 2 minutes, mais mettra des années à rentrer dans l'effectivité de la réussite. C'est transformer notre système scolaire, au moins jusqu'au lycée, comme un système de la réussite pour tous. Donc l'objectif, c'est que tous les enfants réussissent et non pas seulement les meilleurs. Et le deuxième objectif, c'est de faire entrer un nombre conséquent de représentants des salariés dans les conseils d'administration. Mais ça, c'est des mesures, enfin des mesures, des orientations structurelles dont les conséquences prendraient 20 à 30 ans à venir. Alors, si vous voulez des choses plus simples, beaucoup de gens demandent la réinstauration des CHSCT, par exemple, comme un moyen de redonner un espace de parole, d'analyse de la situation en matière de santé et de conditions de travail, par exemple.
Alors, ma dernière question, je trouve que c'est une bonne dernière question. Avez-vous un pays star, je l'ai dit comme elle a été posée, un pays star à nous partager sur ce sujet du travail?
Le problème, c'est que mon pays star, il n'est plus digne de lui-même. C'est-à-dire que mon pays star, ça a longtemps été la Suède, mais la Suède des 20 dernières années, ce n'est plus la Suède, en fait. Donc, mais il y avait les structures en place, c'est-à-dire un système scolaire égalitaire, mais ça, ils l'ont un peu détruit. Ils ont introduit beaucoup de concurrence. Il y avait un taux de syndicalisation, il y a toujours particulièrement élevé. Il y a la présence des syndicats. Et c'est une économie extrêmement capitaliste et extrêmement performante. C'est ça que je tiens à dire, hein. C'est pas du tout explosion du chômage, de la fainéantise, etc. C'est des gens qui ont c'est un pays où il y a toujours des taux d'emploi plus élevés qu'en France, beaucoup plus de capacité à exporter, mais en s'appuyant, ou en tout cas c'était le modèle, sur le bien-être des salariés, sur leurs compétences, sur leur capacité d'initiative et d'innovation. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est parce que c'est un petit pays, parce qu'en fait, derrière la Suède, il y a Volvo, par exemple, qui est la grande entreprise de l'organisation apprenante, hein. Ça a été extrêmement documenté. Et Volvo, c'est comparable à Renault ou c'est comparable à Ford. Donc là, on est bien dans des modes de management, ou l'aéronautique, encore une fois. Mais encore une fois, voilà, moi, j'aimerais pouvoir dire que mon pays star, ce sera la France quand elle va commencer à évoluer. Pourquoi pas? Et puis, Les questions dont on parle, ce n'est pas des questions qui se passent au niveau d'un pays, ce n'est pas homogène au niveau d'un pays. Encore une fois, moi j'ai parlé de tendances, de moyennes, etc. Il y a évidemment beaucoup de contrastes entre les entreprises, entre les secteurs, entre les professions.
Je vous remercie. J'ai fait le tour des questions. Je m'excuse pour les une ou deux que j'aurais omis de poser, mais j'ai essayé de les regrouper. En tout cas, vous l'avez compris, cet ouvrage que je vous recommande vraiment, effectivement, il est dense, mais il se lit très bien parce qu'il y a, comme vous le dites, cinq grandes parties et beaucoup de petits chapitres, beaucoup d'exemples. Donc vraiment, je vous le recommande. Vous voyez à quel point les sujets qu'on a abordés sont vastes. On les a juste effleurés en une heure, mais on aurait pu y passer des journées. En tout cas, encore merci. De nous avoir permis de vous entendre ce soir. Et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce dialogue.
Surtout, merci pour l'invitation, c'est très gentil à vous.
Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site emer21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À très bientôt pour notre prochain cycle de dialogue Emer21.